Depuis plusieurs jours, ce qui passionne le Canada, c'est carrément la décision d'Harry, le prince Harry, de quitter la Grande-Bretagne pour se diriger vers le Canada avec Meghan Markle, c'est sa femme, hein, depuis déjà un petit bout. Et ils veulent se désengager, de ce qu'on comprend tranquillement, des responsabilités de la famille royale.
Ouais.
Déjà, il y a des gens dans le coin de Vancouver qui ont aperçu Meghan être arrivée au Canada.
Dans des refuges de femmes ou des trucs du genre, visiblement la dame veut s'impliquer ou veut donner une bonne impression. C'est très bien. Il faudra voir dans le futur qu'est-ce que ce sera à long terme.
Le prince devrait suivre au cours des prochains jours, mais les questionnements sont nombreux, surtout sur la question financière, parce que est-ce qu'ils continueront à avoir un train de vie financé par la famille royale?
Ils
veulent être indépendants de fortune. Est-ce que c'est possible?
La question, c'est de se demander si ces gens-là viennent ici au Canada comme s'ils viennent à leur chalet où il faut les héberger comme si c'était des invités d'honneur ou ils viennent faire leur petite affaire peinard et indépendante. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je trouve ça intéressant, surtout s'ils sont en quête d'indépendance, proactifs, puis ils veulent être des valeurs ajoutées pour le Canada. Mais s'ils veulent être des boulets puis être des parasites sur notre bras, moi, honnêtement, j'embarque pas.
J'en douterais, mais tu as vu Yves-François Blanchet également du Bloc québécois qui dit qu'on n'a pas à assumer les frais de leur sécurité non plus. Quelles sont les responsabilités du Canada à leur endroit? On va aller parler avec Patrick Taillon, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Taillon, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien?
Ça va très bien. Dites-moi, est-ce que les auditeurs qui nous écoutent actuellement, puis si on extrapole les gens au Canada, ont à craindre quelconque responsabilité financière à leur endroit?
Oui. C'est un sujet symbolique à bien des égards, mais qui, comme bien des sujets symboliques, nous plonge par rapport à certaines contradictions. Juridiquement, il n'y a pas dans la Constitution, il n'y a pas de loi qui oblige le Canada à payer pour la sécurité, parce que c'est ça au fond, hein, le coût c'est d'assumer la sécurité de ces personnalités-là sur notre territoire. Donc, il n'y a pas l'obligation de payer, mais moi, je pense que c'est une question extrêmement embarrassante pour le gouvernement Trudeau parce que les inconvénients sont forts dans les deux scénarios. Là. Sur le plan politique, ça va être très difficile de ne pas payer la facture parce que les problèmes que ça pourrait générer sont quand même importants. Et s'il la paye, la facture, ben il va s'exposer à des critiques sur l'inutilité de la monarchie, le gaspillage de fonds publics, etc., etc. Donc, c'est une situation un peu embarrassante, tout ça.
Mais dites-moi, ça revient aussi depuis quelques jours, la volonté du Canada carrément de cesser d'avoir quelconque contact avec la famille royale. Est-ce que c'est possible de repartir ce débat-là puis de se dire on coupe les ponts carrément? Puis quand on parle de ponts, est-ce qu'il y en a encore tant que ça?
Oui, c'est un des paradoxes. Hein? La monarchie, plus on en parle, plus on voit que ses fondements au Canada sont très fragiles. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire, notamment un éditorial du Globe and Mail de Toronto hier, pour dire on les veut même pas sur le territoire. Le raisonnement est un peu le suivant, là, c'est de dire ben la monarchie au Canada, ça marche bien parce qu'elle est désincarnée. Elle est cachée, elle est refoulée. Il y a Elisabeth II sur nos 20$, là, mais oublions cet aspect-là. Il n'y a pas une personnification. C'est comme si le Canada était une monarchie sur le plan juridique. Là, ça, c'est incontestable. Toutes nos institutions fonctionnent suivant cette logique-là. Mais c'est une monarchie qui n'a pas de royauté, qui n'est pas personnifiée, qui n'est pas incarnée. Même si on leur donne aucun rôle officiel, même si on paye rien, on ne paye pas la sécurité, etc., la simple présence du prince Harry sur le territoire en permanence, là, ça va évidemment, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle internationale, générer énormément de visibilité. Hein. Certains pourraient dire que la publicité gratuite que ça va offrir pour le Canada dépasse largement le coût de la sécurité. Mais ça, bon, ça dépend si c'est sur ces bases-là dont on... Si on peut faire parler de nous à l'échelle de l'humanité sur ces bases-là ou pas, là, ça c'est une question de valeur. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont omniprésents sur le territoire en termes de visibilité puis de rayonnement, pour tout le monde, même si ça n'a rien à voir avec ce qui existe officiellement, ça va devenir le prince du Canada, hein, aux yeux des étrangers, etc. Et ça va tout à coup faire en sorte que cette monarchie, elle va devenir incarnée, personnifiée, et ça va changer notre rapport à la monarchie. Et pour certains qui la défendent, ils disent ben le mieux pour la défendre et la préserver, c'est d'en parler le moins possible, de la garder la plus désincarnée possible et justement d'éviter de tomber dans ce côté un peu people, un peu royaliste. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce débat-là, c'est que ça provoque la discussion autour de l'avenir de la monarchie et ça nous place face à nos contradictions, c'est-à-dire que si on n'en veut pas de monarchie, ben assumons-nous et faisons les réformes qui s'imposent. Et à l'inverse, si c'est ce qu'on veut comme institution, ben qu'on soit responsable et qu'on assume la facture qui vient avec.
Vous dites qu'elle n'est pas vraiment incarnée. Il y a les postes de gouverneur général, lieutenant-gouverneur, tout le kit qui sont les représentants, si on le comprend. Ouais. Il y a des termes juridiques aussi qui y réfèrent. Mais dites-moi, est-ce que le Canada a encore de l'argent à donner à la famille royale pour financer leur train de vie, tout le kit? Ou?
OK. Au Canada, la monarchie a un coût. Il est essentiellement associé au fait que lorsque l'on reçoit les représentants de la famille royale, normalement pour des visites, on acquitte la facture. L'autre coût important, c'est que le gouvernement fédéral paie le salaire de tous les lieutenants-gouverneurs de toutes les provinces. Il paie aussi le salaire du gouverneur général. La retraite du gouverneur général aussi, donc il peut y avoir plusieurs retraites à payer. On parle d'un salaire là qui dépasse un peu celui du premier ministre, là, mais dans l'ordre du 200 quelques mille là à peu près. Et on parle aussi de budget pour des activités. Exemple, Adrian Clarkson a créé une fondation. Donc, il y a un certain budget de fonctionnement pour des activités réelles, cela dit. Là, c'est pas ces gens-là font quand même un travail, même s'ils font pas de politique, ils font toutes sortes d'activités de représentation. Donc, le coût de la monarchie se situe à peu près là, quelques résidences officielles pour ses représentants de sa majesté au niveau fédéral ou dans les provinces. Là, si on a Prince Harry et son épouse, les coûts de sécurité sont assez difficiles à évaluer. Hein. Est-ce qu'ils vont vivre en ville ou à la campagne? Ça dépend du type d'immeuble, ça dépend du nombre de déplacements qu'ils font. Mais pour gagner leur vie, je pense qu'ils vont gagner leur vie avec leur image. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils se déplacent. Pour vous donner un ordre d'idée, là, la plupart des... Moi, je connais peu dans ces chiffres-là, mais on lit beaucoup, on parle d'un chiffre là, autour de 1 à 2 millions par année. C'est l'estimé qui circule. Mais en même temps, si vous regardez le coût de la sécurité pour le premier ministre en ce moment, on parle de 20 millions par mois. Donc, j'imagine que ça va être en dessous de la sécurité accordée à Justin Trudeau. On va être en dessous du 20 millions par mois. Et que probablement que le chiffre de 1 à 2 millions est un chiffre assez modeste. Peut-être quelque chose entre les deux, faudra voir.
Mais vous me rassurez, on n'a pas une obligation au Canada, exemple, d'envoyer des millions en Angleterre pour financer le chauffage puis les repas à Buckingham Palace.
Non, en fait, c'est comme si le jour où le Canada est devenu indépendant, nous avons maintenant la même reine, mais c'est deux jobs différents. C'est comme si vous animiez à la radio le midi et que vous animiez un bulletin à la télévision le soir pour une autre entreprise. Donc, c'est toujours vous qui occupez les deux charges, les deux emplois, mais contractuellement, juridiquement, c'est deux emplois différents qui pourraient être occupés par deux personnes différentes. C'est juste que le hasard ou le choix, les circonstances font en sorte que c'est vous qui occupez les deux jobs en question. Donc, Élisabeth II, elle est maintenant reine du Canada. Ça, c'est une de ses 16 couronnes, si je peux dire. Donc, elle a 16 boulots, 16 charges, 16, le chiffre vient dire, difficile à dire. Donc, elle a plusieurs emplois, tout simplement. Et donc, lorsqu'elle agit pour le Canada, ben nous, en tant que visite ici, on assume cette facture-là. Le reste du temps, elle occupe au fond son emploi principal, qui est celui d'être reine du Royaume-Uni. Et les coûts associés à la vie de château, etc., sont évidemment pas assumés par les contribuables canadiens et québécois.
Vous êtes quelqu'un qui suit ça avec intérêt. Je vous pose une question qui peut avoir l'air simpliste au maximum, mais quand même, est-ce que Harry et Meghan sont au Canada comme quelqu'un va au chalet dans les Laurentides ou Harry et Meghan sont au Canada pour sortir un peu des jupes de papa et de grand-maman?
Peut-être plus la seconde hypothèse, j'ai l'impression. Puis c'est difficile à évaluer. Hein? Nous, on regarde ça de loin. Je veux pas les défendre, mais si on regarde, y a un côté, on se déresponsabilise de nos devoirs qu'ils doivent assumer au Royaume-Uni, etc. En même temps, quand on regarde la vie du prince Harry, on constate que c'est un jeune homme qui a perdu sa mère et qui doit probablement avoir le sentiment que c'est les médias qui ont coûté la vie de sa mère. À vouloir un peu fuir la presse britannique, c'est peut-être un réflexe humain. Je suis pas là pour le justifier tout ça, mais je pense qu'il faut parfois se mettre dans la vie. Vouloir avoir une vie privée, c'est probablement aussi pas tant, vous avez dit, les jupes de leur grand-mère, de leur père, etc.
Ouais.
C'est aussi, je dirais, toute la contrainte qui vient avec la vie, une vie orchestrée constamment par le protocole.
Okay.
Donc, dès qu'on veut faire quelque chose par soi-même, ça prend beaucoup d'autorisation, beaucoup d'organisation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de quitter ça pour acquérir peut-être ce que chacun de nous avons, c'est-à-dire une vie privée où on est, comme individu, davantage libre de faire des choix. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans gagner leur vie par eux-mêmes.
Mais est-ce qu'on dit à ce moment-là...
En bout de ligne, peut-être que leur vie ne sera pas tellement différente. Hein? Et comme prince et princesse, ils faisaient des événements de charité, de la représentation, etc. Probablement que pour gagner leur vie, la façon la plus logique de faire de l'argent et d'en faire beaucoup, ça sera encore une fois d'inaugurer des événements, d'associer leur nom à des bonnes causes, etc., puis d'en tirer une visibilité maximale. Donc, j'ai l'impression que leur quotidien va pas tellement changer, c'est juste qu'ils vont avoir peut-être plus de contrôle sur les choix qui sont faits, et la manière dont ça se fait et où s'en va l'argent finalement.
Dernière chose, ça regarde probablement plus dans la Cour d'immigration que des questions de droit constitutionnel,
ouais.
Mais est-ce qu'ils devront passer par un processus d'immigration s'ils veulent rester ici à temps plein ou?
Oui, encore une fois, ça nous place devant nos contradictions puis certaines hypocrisies. Hein. Le ministère fédéral de l'immigration dit qu'ils n'auront pas de passe-droit. Attention, là, je pense qu'on essaie un peu de camoufler l'affaire parce que la loi sur l'immigration est très claire. Là. Le ministre a une très, très grande discrétion. Enfin, qui existe, là, pardonnez-moi l'expression, en chinois, on dirait un fast track, là, une procédure simplifiée, discrétionnaire, puis il y a la procédure normale. Et moi, je peux pas imaginer. Donc, ils vont suivre la loi, là, ils vont être obligés de respecter la loi canadienne, ils vont être obligés d'avoir des papiers, mais je peux pas croire que dans toutes les discussions complexes qu'il va avoir à être discutées entre tous ces diplomates-là, là, que la question de des papiers va pas se régler en douce, mm-hmm. parce que déjà la loi le permet, puis là, on va nous dire après, ben ils ont pas eu de passe-droit, c'est prévu par la loi, oui. Je comprends, mais ça va être une forme de passe-droit quand même, qui se comprend, là, le dossier est complexe, on va pas les envoyer faire la queue au bureau de l'immigration, là, quand déjà, il faut assumer des questions complexes de sécurité, etc. Donc, moi, ça me choque pas, mais je pense qu'il faut pas non plus berner les gens. La loi permet une grande discrétion, puis j'ai l'impression que c'est cette procédure-là qui va être exercée.
Monsieur Taillon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci infiniment.
Au revoir. Patrick Taillon est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Laval, spécialisé en droit constitutionnel, on l'a bien compris au cours de l'entretien. Ça risque d'être fort intéressant à suivre, même si effectivement on a un désengagement presque total, encore plus au Québec, là, à l'endroit de la monarchie. C'est pas rien ce qui se passe actuellement.
Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui sont suspicieux. Enlevant les histoires des François Blanchette puis la question nationaliste et qu'est-ce qui vient un peu faire dévier tout ça, là. Mais on est un peu inquiet en tant que contribuable ou en tant qu'humain de voir des gens de la haute arriver puis de se dire, bon, ben ces gens-là viennent-ils au Canada comme s'ils viennent au chalet, puis à un moment donné, ils vont passer 3 semaines à Vancouver, ils vont passer 3 semaines à Toronto, puis au bout de la ligne, c'est-tu nous autres qui vont le payer le trip pendant des vacances de 3, 4, 5, 6 mois? Ou ben donc, ces gens-là sont, et le terme qu'on parlait tantôt, là, le terme c'est émancipation. Le gars, il a été dans la couverture royale toute sa vie. La madame, comme telle, elle tripe peut-être une couple d'aspects, mais ça ne tente pas de rester avec le spectre de la belle grand-mère au-dessus de ta tête. Peut-être qu'elle, au Canada, elle vient ici pour faire du bien, puis que le gars, Harry, qui a déjà été militaire, qui a déjà été ci et ça, ça y tente justement de s'émanciper. Tu sais, l'émancipation, Simon, il y en a qui l'ont à 14-15 ans quand ils sacent le 4 chez eux, un peu vite, puis il y en a qui l'ont à 25 ans, puis il y en a qui l'ont à 35 ans. Souhaitons que ce soit la deuxième option.